Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Natacha Valla, elle est doyenne de l'école du management et de l'innovation de Sciences Po, présidente du Conseil national de la productivité et co-auteur du Futur de la monnaie. Chez Odile Jacob, Jean-Pierre Petit, président des Cahiers verts de l'économie, organisme de conseil en stratégie d'investissement. Frédéric Farah, économiste et enseignant à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, auteur de No Frexit, ce que les jeunes pensent de l'Europe. Chez Fayard, j'en étais à poser des questions qui fâchent, un risque de crédit, voire un incident de crédit tricolore, est-il possible ?
Alors, c'est difficile à dire, mais bon,
Frédéric Farah.
J'ai des réserves là-dessus, mais je voudrais surtout aussi réagir à ce que Jean-Pierre Petit vient de dire. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, alors si on doit faire un peu d'histoire, si les marchés financiers finalement achètent davantage, entre guillemets, le programme, on va dire RN, que le programme NUPES ou Front Populaire, alors comme vous savez, on est une époque où on aime bien dans notre pays faire plein de références aux années 30, aux années 40, enfin, c'est même un peu fatigant, mais.
Oui, c'est un peu fatigant.
C'est un peu fatigant. On voit Hitler tous les 4
matins. Oui.
On voit.
Ça marche.
Non, mais c'est vrai que c'est relou de tout ramener au maréchal Pétain.
Mais alors, si c'est cette information qui circulait, ben moi je vais vous le dire, la comparaison qu'on va faire. Le retour du mur de l'argent. Voilà.
Qu'est-ce que vous voulez dire ?
C'est-à-dire.
Cartel des gauches.
C'est-à-dire. Ah. Oui. On va faire de l'histoire parce que moi j'adore ça. Donc faisons. Alors, le cartel des gauches, quand il arrive, aux affaires en 24, il dit, ben voilà, pourquoi on va pas. Les radicaux arrivent, il dit, ben pourquoi on va pas réussir à faire notre programme ? Parce que c'est les 200 familles, c'est le mur de l'argent, etc. Et ben là, puisqu'on adore ces comparaisons à la française. Si effectivement on est dans ce scénario-là, ben on va expliquer que, encore une fois, c'est le mur de l'argent, alors c'est peut-être pas les 200 familles, mais c'est évidemment les marchés financiers qui préfèrent le RN à la gauche, alors si on veut aller dans ce truc-là. Mais laissons cette référence historique, parce que je n'en peux plus des références à la Seconde Guerre mondiale ou les années 30.
C'est très à gauche, le programme éco du RN, fondamentalement.
Oui, mais en même temps, moi ce qui m'intéresse, c'est, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, on disait, oui, on se retrouve au niveau du Portugal. Pour moi, ça a toujours été le truc qui m'a frappé. On nous avait raconté, et donc ça avait donné aussi des drôles de trucs, que quand on avait l'euro, on allait avoir une espèce d'indistinction du débiteur. C'est-à-dire que ce soit les Grecs ou les Allemands, ils allaient avoir les mêmes taux.
Et on a ça vu. Ça fait 15 ans que c'est fini, Frédéric.
Oui. On
a cru, oui, pendant quelques années.
Mais pourquoi c'est important que je le dise ? Pour une raison simple. Alors, on a donné aux Grecs et aux Allemands la même chose. On a vu que, bon, c'était pas la meilleure idée du siècle.
Oui, on a confondu la dette grecque et la dette allemande.
Mais pour moi, sans vouloir pinailler sur les détails, si finalement on distingue la nationalité de l'émetteur, je dis toujours, est-ce que la monnaie est restée aussi unique que ça, puisqu'effectivement on retrouve la composante nationale comme autrefois, mais de manière déguisée. C'est-à-dire que effectivement, normalement on devrait dire celui qui émet ça, il fait partie de la zone euro. Point.
Sauf que Frédéric, si l'Italie n'émettait pas en euros mais en lire et la France en francs, c'est pas ces taux-là qu'on aurait.
Mais en même temps, on aurait pu penser qu'avec la monnaie unique.
Oui, mais enfin, si j'ai bien compris.
Elle a écrit le futur de la monnaie.
Ce que tu dis, c'est que si jamais il y a une coalition de gauche, le Front Populaire, ils vont dire bon, on peut pas tout faire. C'est ça que tu veux dire.
Oui.
Mais ils vont tous dire ça.
Ils vont tous dire ça.
Le RN va dire on peut pas tout faire.
Mais quand même, ils peuvent
une cohabitation.
Parce que pour le MEDEF dont on parlait tout à l'heure, s'ils remontent le taux d'IS au niveau antérieur, s'ils abolissent le prélèvement forfaitaire à 30%, s'ils rétablissent l'ISF, enfin, je veux dire, ça a des conséquences macro quand même.
Et c'est vrai que
ça, ils peuvent le faire. C'est-à-dire, ça, le marché.
On va au-delà.
Ça, le marché, ils attaquera pas là-dessus.
Je rappelle juste que le RN a dit qu'il voulait légiférer par ordonnance. Ça veut dire qu'il vous faut une loi d'habilitation. Il faut que le président signe les ordonnances et qu'il y ait une loi de ratification.
C'est le retour.
C'est de la cohabite. Et la cohabitation, on fout là ce qu'on veut. La cohabitation, on change pas la constitution, par exemple, pendant la cohabitation. Donc.
C'est Chirac, Mitterrand, 86, 90.
Oui, mais.
Non, mais je sais, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que pour les marchés, a priori, quand même, le plus gros risque actuellement. Quand on voit à peu près, même en tenant compte de ce que tu viens de dire, c'est quand même le risque Front Populaire. Après, c'est la reconduite effectivement, de la majorité actuelle et le cas Meloni, on va dire. Voilà.
Personne n'imagine une seconde qu'il y ait une cohabitation avec le Front Populaire. Enfin, ça semble.
Mais, oui, mais attends, ils ont quand même. La gauche n'a pas fait un si mauvais score aux
Européennes. Aux Européennes, c'était Glucksmann avec.
Ils ont fait exactement le même score qu'en 2022. J'ai bien vérifié.
En cumulant toutes les forces
de gauche. Les quatre forces de gauche qui font partie de la, du Front Populaire.
Oui, mais je pense qu'il y a une partie de l'opinion gauche modérée qui aura un peu de mal à voter à une, dans une formation politique.
Une partie de la droite modérée qui aura du mal à voter.
Parce que le LFI 2024, c'est pas le LFI 2022.
Vous savez, les élections, je veux dire, des fois, il y a des surprises. Non, mais il y a vraiment des surprises. Jamais oublié que la République s'est imposée en France au début des années 1870 avec une voix d'avance, c'est l'amendement Vallon. Des fois, il y a des phénomènes tout à fait qui passent ric-rac pour des.
Natacha voulait réagir, elle a un déficit de temps de parole. Il y a Pascalou qui m'écrit que le RN veut rétablir l'ISF, ce qui est vrai. C'est un impôt sur la fortune.
Ça fait le lien.
C'est exact, ils veulent supprimer
l'IFI. Les marchés, ce qu'ils vont regarder, ils vont regarder l'impact sur les finances publiques. Il y aura peut-être des turbulences potentiellement fortes sur les taux d'intérêt qui s'appliquent à la dette française et ce sera peut-être une bonne nouvelle.
C'est quoi une turbulence forte?
Des spreads qui arrivent.
200 points de base.
Pourquoi? Enfin, moi, ça me.
On est monté à 190 au moment de la crise des dettes souveraines.
Ça me choquerait pas du tout, mais ça, en soi, c'est pas grave. C'est un signal. Ce qui est plus important, c'est comment on juge l'économie française, l'impact sur la croissance, l'impact sur les flux d'investissement étrangers, sur l'attractivité du pays. Ces choses qui sont à l'articulation du très court terme et du moyen terme, il y a quand même beaucoup d'investisseurs qui sont là. Donc, en gros, il y a beaucoup de traders qui vont sûrement faire beaucoup d'argent dans les mois qui viennent, ça c'est sûr, parce qu'il y aura plus de volatilité sur les taux. Mais il y aura ensuite des logiques d'investissement d'un peu plus long terme qui porteront à conséquence plus longtemps. Et ça, je pense que c'est important de le garder en tête aussi.
Ce qui est important de ce que dit Natacha, c'est qu'effectivement, si tu as une augmentation du taux d'IS uniquement, le taux d'IS...
Impôt sur les sociétés.
Rétablissement de l'ISF et abolition de la baisse du prélèvement forfaitaire à 30%, pour moi, en soi, ces mesures-là, c'est ce que je dis à mes clients, même si ça les gêne, je leur dis, ça, il n'y a pas trop d'impact sur le spread. Mais par contre, il y a un impact macro. Incertitude pour les entreprises, etc. Et là, c'est pas tellement au niveau du spread, ce sera... Plus exactement, d'abord au niveau de la croissance, décrochage supplémentaire de la France, et à donc ensuite éventuellement impact sur le spread, parce que ça aura des implications pour les finances publiques. C'est ça qui me gêne un peu là.
À partir de quel niveau de spread Bund OAT vous diriez il y a le feu?
Non, pour l'instant.
Je
vois ce que tu veux dire. Oui, c'est sur la soutenabilité.
Oui.
C'est-à-dire compte tenu du solde primaire, compte tenu du taux d'intérêt apparent de la dette et de la croissance nominale, qui sont les taux.
Il y a eu le feu en Grande-Bretagne, il y a eu le feu en Italie déjà. Il y a eu le feu en Grèce. Donc bon.
Alors, disons que ça. Alors, nous, on avait effectivement travaillé là-dessus même avant les décisions des agences de rating. Ça commence. C'est les niveaux que tu as mentionnés tout à l'heure. Avant l'élection de Hollande, on tangentait les 200 bips à peu près. Ça fait monter le taux apparent. Mécaniquement, alors c'est graduel parce qu'évidemment c'est sur le stock de dette qu'on refinance, c'est ça qui est important, mais ça commence, mais surtout on déclenche c'est ça sur les marchés difficilement prévisibles parce que ça déclenche les mouvements auto-réalisants. Tout le monde fait comme tout le monde.
Oui,
voilà, quelle que soit notre opinion.
C'est dit animal spirit.
Animal spirit.
Total. Mais c'est pour ça.
Gains,
mais c'est pour
là,
ça.
Faut de beauté.
Mais c'est là, pour faut réagir. Faut que le gouvernement réagisse et éventuellement la BCE.
Mais je vous rappelle juste que Liz Truss, ça met moins d'une semaine. Oui, le FMI est aux portes de Londres. La Banque d'Angleterre intervient pour éviter l'Armageddon des fonds de pension.
Certes, mais la Grèce, ça prend 5 ans et demi. Premier spread, quand on voit qu'avec Goldman Sachs, ils ont triché, c'est fin 2009. Et le dernier accord avec le référendum, un peu tragicomique, de l'été 2015, c'est juillet 2015.
Oui, mais...
Pas oublier que le défaut grec, c'est le plus gros défaut
de l'histoire d'un pays occidental.
Oui, non, mais ça prend 5 ans et demi, mais parce que la Troïka est derrière. Si la Troïka n'est pas là, c'est...
Je te dis, ça peut durer, quoi.
Non, mais en même temps...
Italie 2011, il a fallu, moins de 4 jours pour que les affaires du de Berlusconi, on mène le taux long italien à 8.
Oui, alors n'oubliez pas que...
Et on met Monti en urgence, et c'est un coup d'État parlementaire qui vire Berlusconi pour mettre Monti en catastrophe.
Importance des gouvernements...
Nommé sénateur à vie par Giorgio Napolitano.
Importance des gouvernements, des décisions politiques des gouvernements, mais importance de Mario Draghi fin juillet 2012. qui back le système, si je puis dire.
Oui, non, mais, voilà, mais en même temps.
Bah, j'aimerais bien qu'il remplace Ursula.
Ah, ben, j'aimerais bien qu'il soit partout, lui. C'est le seul dirigeant européen de qualité.
Mais, oui. Mais en même temps, pour
revenir. On vote Mario.
Je pense que Natacha est d'accord.
Je sais que Philippe Aguillon voterait Mario aussi.
Tout le monde vote
extraordinaire. Moi, j'attends d'ailleurs sa note, là, grande note en juin sur l'avenir de l'Europe et du marché.
Ce qui avait été inquiétant à l'époque, c'est quand même se dire que c'était un pays comme la Grèce qui pesait autour de 2% du PIB européen qui pouvait être à l'origine d'une crise pareille.
Personne ne le pensait au début.
Parce qu'effectivement, parce que si ça venait de l'Allemagne, vu le poids, on aurait dit, bon, bah, c'est normal, comme foyer.
Bien
sûr. Mais un pays qui pèse 2%, on se dit, bon, bof.
Et pourtant, si.
C'est à quoi on aille. Et d'ailleurs, on revient sur le cas italien. Aujourd'hui, les présidents italiens, hier Napolitano, aujourd'hui Mattarella, etc. Leur fonction, c'est pas simplement de garantir la constitution italienne. On voit bien quand les gouvernements se constituent, c'est pour cela qu'elle veut aussi modifier la constitution. Ils vérifient toujours que ceux qui sont retenus ou choisis dans les gouvernements ne prennent pas des orientations trop contraires aux intérêts européens. Et ça, c'est l'évolution de la fonction du président italien. Il n'est pas simplement le gardien moral ou le gardien de la constitution. Il s'assure des engagements. Et c'est pour cela que dans la réforme constitutionnelle que veut faire Mme Meloni, que je suis de près, le président de la République, il risque de se retrouver marginalisé dans son rôle.
On reconnaît que c'est quand même très soft par rapport à tout ce qu'on craignait en 2000.
Mais oui, mais c'est pour ça.
Mais c'est pour ça que je tiens. Non, mais la dernière fois qu'il y a eu une politique économique, on va dire, très différente de tout ce qu'on a vu, c'était 81. Après 81, toutes les politiques économiques qui commencent à partir de mars 83 aujourd'hui, c'est de la nuance, ça se discute, il y a des choses et tout. Mais les tendances de fond sont restées les mêmes. La dernière fois qu'on a vu vraiment une politique économique très très différente, qui n'a pas duré très longtemps, c'était 81.
Après 80, ça dure 2 ans et au bout de 2 ans,
après 80,
le tournant.
Même quand il y a eu la gauche plurielle fin des années 90, la politique économique conduite, ça reste quand même dans une orthodoxie de manière globale.
Et c'est exactement ce qui pousse les gens à se dire, peu importe pour qui tu votes, c'est toujours la même chose, il ne se passe jamais rien et on a envie d'essayer autre chose.
Parce que le cadre économique, à partir du moment où vous acceptez le cadre économique général, c'est-à-dire ce que je dis tout à l'heure, l'euro, le marché unique et les engagements européens, les politiques économiques que vous engagez ne peuvent pas être fondamentalement différentes. C'est tout simplement parce qu'on s'est engagé là-dessus, donc tous les gouvernements qui viennent ne peuvent pas proposer une rupture économique. Qu'ils s'appellent RN, Front Populaire, Front Martien, je sais pas qui, Front National, Rassemblement National, Amour National, j'en sais rien, ce sera la même chose.
Le futur de la monnaie, Natacha Valla, par moment, on pourrait mettre un sous-titre, l'euro est-il mortel ?
Toutes les monnaies le sont à très 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 long terme. Le dollar est dominant aujourd'hui sur l'économie mondiale. Peut-être que dans 10 ans, 20 ans, il ne le sera plus. Les choses évoluent lentement mais sûrement.
Je pense 58% des réserves de change, ça reste inchangé.
Oui, mais il y a des tendances. Les monnaies émergentes se mobilisent. On voit qu'il y a une substitution. Il y a une organisation justement de cette substitution dans le monde émergent qui fait que l'euro garde sa place en fait dans cette architecture internationale. Moi, je trouve qu'il a été plutôt résilient, plutôt même très résilient.
C'est l'un des éléments centraux du bilan de l'euro. C'est quand même une forme de stabilité.
Mais il faut espérer
même si
que ça reste.
Frédéric est très critique sur bien des points.
Mais ça doit rester un objectif politique. Ça doit rester un point de concorde entre tous les membres de la zone euro.
Ouais, mais Jean-Pierre Petit.
De toute façon, personne n'a trouvé la bonne technique, la bonne séquence pour sortir d'une union monétaire aussi intégrée que celle qui existe aujourd'hui, qui est née à Hanovre en juin 88, qui a mis 14 ans avec l'accélérateur de la réunification allemande pour que les billets et les pièces rentrent dans nos poches le 1er janvier 2002. Vous vous rendez compte du truc qu'on a construit ? Personne ne sait démanteler ce truc-là sans coup majeur, bien évidemment.
Sans coup majeur.
Sans chaos majeur.
Je n'oublierai jamais la formule de Yves Thibault de Silgy, l'euro est une autoroute sans sortie.
Cette union,
c'est un aller simple. California, d'ailleurs, mais
C'est un aller simple.
C'est un
aller simple. Les unions monétaires qui ont échoué dans le passé, c'est l'union monétaire latine.
Vous allez me le désespérer, Frédéric Farah.
C'est l'union monétaire scandinave. Moi, je les ai bien étudiées. Elles ont échoué, mais elles n'avaient pas du tout le caractère d'intégration qu'on a aujourd'hui.
Et d'ailleurs, c'est marrant parce que qui avait rejoint l'union monétaire latine, c'était la Grèce qui en est sortie en 1908.
Absolument. La Grèce a foutu le bazar.
Oui, en 1908.
Et la Suisse n'a pas aimé. Du coup, elle a décidé de ne plus avoir aucune union monétaire.
Ça vous intéresse, TF1 qui perd 7%, M6 3,1 hier ? Parce que Sébastien Chenu dit sur BFM TV, si on est là, on privatise l'audiovisuel public.
Oui, parce que je pense que c'est plus de la rhétorique politique. C'est parce qu'il n'est pas content du traitement politique.
Mais il faudra des recettes aussi pour financer tout leur truc.
Évidemment. Bon. Et puis, je crois que c'est juste ça, c'est tout. Je crois que ce n'est pas la priorité du gouvernement.
Non, mais en tout cas.
Si jamais Jordan Bardella est Premier ministre. ça m'étonnerait que ce soit ça.
L'idée, c'est qu'évidemment, s'il y avait un nouveau pôle privé, grand pôle privé de l'audiovisuel, eh ben, ça rognerait le marché publicitaire.
Je m'excuse de revenir sur le cas Mélanie, quand même. Mais ça, ça a impressionné les dirigeants à la fois du Rassemblement National et Ciotti. Je pense que si Ciotti a pris cette décision un peu qui peut paraître assez insensée à certains hier, c'est pas pour rien. C'est parce que Mélanie, vous avez vu ses résultats à l'élection européenne, elle augmente.
Oui.
Elle est et d'ailleurs c'est la principale dirigeante européenne aujourd'hui, puisque en fait
c'est elle qui a marqué.
Macron est démonétisé, Scholz n'en parlons même pas. Je veux dire le pauvre avec ses 14%, c'est la dirigeante européenne.
Mais oui, comme certains disent, elle fait du techno-souverainisme.
Oui, c'est ça.
Techno-souverainisme.
Mais oui, c'est-à-dire,
c'est bien d'inventer des concepts.
C'est-à-dire, elle a une équipe de technocrates. On le voit bien parce que même, il fallait qu'elle renégocie avec l'Union européenne pour certains objectifs du fameux plan de résilience et autres. Elle veut montrer qu'elle a les équipes, qu'elle arrive à le faire largement. Je ne pensais pas un seul instant quand Mélanie allait arriver. On n'est plus dans la séquence 2013, 15, 16, 17 où certains disaient on veut sortir de l'euro, etc. et tout. Et il y a plein de gens de la Ligue qui avaient des économistes extrêmement brillants, je pense à Alberto Bagnai par exemple, qui avaient théorisé l'idée d'une sortie de l'euro et autres. Il s'est mis à la Ligue en espérant que ça arrive. Bah, il a mangé son chapeau, hein, puisque.
Oui, s'il t'achetait la Ligue.
Ben, voilà, je veux dire, c'est un fait. Donc, je ne crois pas du tout que le cadre général, qui que ce soit, veut le remettre en cause.
Il y a un auditeur, Christophe, qui me dit « Pourquoi le RN est mauvais pour la France alors que Mélanie en Italie a réussi ?»
C'est ça, la réaction de hier, c'est ça.
Ouais. On a 10 minutes. On a fait le tour, là, quand même. Sujet, je crois.
On a fait un premier tour.
Dans l'actualité économique, je voudrais vous faire réagir à l'interview de Christine Lagarde dans Les Échos hier. C'est quand même un sujet très BFM Business. Je commence avec Natacha. Comment vous appréciez Madame Lagarde qui dit je veux 2% d'inflation, tant que j'ai pas mes 2%, je baisse pas les taux. Je le fais un peu à l'enfantin, mais c'est un peu ça.
Mais qu'est-ce qu'elle peut dire d'autre? En fait, c'est son rôle, la Banque Centrale. La condition d'efficacité de l'action de la Banque Centrale. Et on sait que l'action de la Banque Centrale, elle peut être extrêmement puissante.
C'est déterminant, en fait, aujourd'hui.
C'est la personne
la plus importante.
Et bien sûr, c'est de rester dans les clous et dans l'esprit de son mandat principal. Et son mandat principal, c'est la stabilité macroéconomique qui s'exprime par la stabilité des prix.
Et Emmanuel Macron voulait qu'elle mette croissance-emploi en plus.
Mais le croissance-emploi, ils y sont en conditions secondaires.
C'est vrai.
Ça fonctionne quand même très bien. On se rend compte que ce soit dans des circonstances qui, cycliquement, sont difficiles ou des circonstances de crise, ce mandat-là, que beaucoup jugent trop orthodoxe, eh ben il a été suffisamment souple pour aller faire des choses qu'on n'aurait jamais imaginé.
Maintenant, on tourne d'ailleurs autour des 2%, alors qu'avant, il fallait l'approcher en restant en dessous.
Alors, ça a été 2 ans de discussion.
Oh là là, oui, on a écrit la doctrine du 2%.
Mais de fait, moi, je pense qu'elle ne peut pas dire mieux que
d'accord.
ça. Et le fait qu'elle le dise, c'est vraiment rassurant.
Bon, les 2%, Jean-Pierre, petit.
Il faudrait que ce soit une femme qu'elle s'affirme comme vraie dirigeante politique. Parce que dans politique monétaire, je le rappelle toujours, il y a politique. Et Mario Draghi. Mario Draghi, il a joué un rôle politique. Il n'a pas joué un rôle technique, monétaire.
Ça affirme tout. Oui.
Mais t'as vu les challenges qu'on a à affronter pour les prochaines années? Enfin, je veux dire, on a besoin du soutien de la seule institution fédérale intégrée de la zone euro. C'est évident. Et on n'a pas besoin d'un organisme comptable qui regarde si on est à 2,0%. Mais... Ça, c'est ridicule.
Les
anticipations d'inflation baissent, la productivité va un peu remonter, salaires commencent à décélérer. On y va vers les deux.
Mais il faut comprendre, quand elle dit l'objectif c'est 2%, elle dit pas je suis comptable et l'objectif c'est 2%. Elle dit j'ai un consensus à obtenir autour de la table du Conseil des gouverneurs. J'ai peut-être des choses énormes à leur faire accepter de façon la plus consensuelle possible. Si je pars en disant je vais remettre en cause mon mandat et mes statuts, et ça complique les choses pour rien.
Mais n'oublie pas, Natacha, que Mario Draghi n'était pas consensuel au début.
Il n'a jamais dit autre chose que l'objectif des 2%, Mario Draghi.
Oui, mais il a été critiqué quand l'OMT a été mis en place en 2012, je me rappelle.
Il disait 2%.
Il a été critiqué en Allemagne quand il a mis en place plus tard, 2 ans après, le quantitative easing. Il a été critiqué. L'ancien gouverneur de la Bundesbank que j'arrêtais pas de critiquer.
Reinmann.
Il critiquait implicitement. Draghi évidemment.
Il critiquait, mais il a signé. Il a dit oui.
Mais
comme
il
ne
faut
les
pas
autres.
Chercher le consensus. Il y a un moment, moi, j'attends des dirigeants de banque centrale comme des dirigeants politiques. J'attends,
mais
qu'ils prennent des positions audacieuses.
Je pense que l'audace de la position, elle se fait dans l'épure du discours et l'épure du discours du banquier central, c'est celle-ci. Le plus fort pouvoir politique qu'une banque centrale peut avoir, c'est en restant dans une logique et un discours qui est contenu dans l'importance de la délégation qui lui est faite, de la souveraineté monétaire. Et cette délégation, elle lui est faite par les ordres constitutionnels des différents pays membres.
Très bien que la norme de 2% ne correspond à aucune optimalité historique.
Mais c'est pas la question. On discute pas du 2 ou du 4% aujourd'hui. On va pas se mettre à rouvrir la stratégie de politique monétaire en disant est-ce que c'est 2 ou est-ce que c'est 4 aujourd'hui. Puisque ça,
si,
pour moi.
Aujourd'hui, parce qu'il faut faire baisser les taux réels.
Mais ça, c'est la vraie question, c'est la survie de l'euro. On a dit que c'était pas vraiment en cause, mais quand même, il faut quand même garder ça en tête. Et après, qu'on décide 2%, 4%, en période de paix et en période de stabilité macroéconomique, on peut se donner le luxe d'avoir cette réflexion. Mais pour moi, c'est une réflexion qui est avant tout rhétorique. C'est l'esprit, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, c'est l'esprit de responsabilité politique d'une institution qui est publique, qui doit s'exercer dans sa...
Juste un point, ce que tu... J'en ai juste pour une seconde, sur ce que tu viens de dire. Justement, on n'est plus en économie de paix, hein. Alors, David Bavrez exagère quand il dit économie de guerre.
Mais... Nicolas Bavrez.
Non, David,
ah oui.
Non, c'est le frangin.
Ah oui, oui.
On a une économie, non pas de guerre, mais de conflictualité. Et donc les dépenses militaires de sécurité, d'approvisionnement énergétique, etc., vont devoir augmenter.
En tout cas, elle assume
donc,
de
diverger. On a besoin d'un taux réel plus bas.
Frédéric, par rapport à ça, et puis Macron qui avait dit, mais il faudrait, comme je rappelle sur l'histoire de croissance et emploi, c'est effectivement, je ne sais plus dans quel article, mais dans la mesure où ça n'a pas d'implication et d'influence sur le niveau des prix et la stabilité des prix, il peut être intégré dans les réflexions, les questions de croissance et d'emploi, dans la mesure où ça...
Il est déjà. C'est déjà écrit comme ça.
Voilà, c'est ce que je dis, c'est écrit comme ça. Voilà.
Non, mais c'est écrit comme ça. C'est-à-dire que Frédéric, il n'est, quand on lit les statuts, ce n'est pas écrit objectif unique, c'est marqué objectif principal.
Oui,
voilà. Voilà, c'est écrit objectif.
Il y a les objectifs secondaires.
Voilà, objectif. Et on dit si ça ne porte pas préjudice à ça, il y a le reste. Donc c'est clair qu'on a créé une hiérarchie. C'est vrai que la Fed, elle, en 47, modifie son statut pour mettre la croissance comme objectif. Donc ça, c'est une réforme de la Fed en 1947 qui génère la transformation. Mais par rapport au débat là-dessus, c'est l'ambiguïté de départ. C'est-à-dire que l'on a voulu, d'un côté, dépolitiser la monnaie idéologiquement qu'on a construit la monnaie unique, la BCE comme ça. Parce qu'on avait dit... Si on laisse la monnaie entre les mains des chefs d'État, ils vont avoir un usage démagogique de la monnaie à des fins électorales. Il faut soustraire au cycle électoral la gestion de la monnaie.
C'était la volonté d'indépendance des banques centrales historiques.
C'est tout le courant de pensée qu'on retrouve, dans les années 70, dans la nouvelle économie classique américaine qui demande des Prescott, etc. Rules rather than discretion. Bon. Et donc, d'un côté, on dit... Il faut la sortir des États, mais en même temps, la monnaie est quelque chose de fondamentalement politique. C'est-à-dire que... Mais en même temps, au départ, on dit... Attention, si on la laisse entre les mains des gouverneurs divers et variés, chacun va utiliser la monnaie de manière démagogique. Donc, à la fois, on veut la dépolitiser, mais tout en sachant que par nature, elle est politique. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que même l'acte 1 de celui qui arrive à la tête de la BCE au début, Wim Duisenberg, le premier. Pourquoi il est là, lui, et pas un autre? Parce que c'est un néerlandais, et on sait depuis longtemps que le florin, par rapport au marque, avait depuis longtemps été dans la lignée du marque. Donc, quand on n'allait pas mettre un allemand, on met un néerlandais qui permet sa... Et donc, déjà, acte 1 politique en tant que tel, en mettant Wim Duisenberg ici.
C'est une très bonne référence. C'est mon premier boss, donc je suis très ému qu'on mentionne Wim Duisenberg.
C'est votre premier boss, Wim Duisenberg.
Oui, parce qu'on l'a un peu oublié, Wim Duisenberg.
C'est un peu de l'histoire.
Je m'excuse, c'est juste anecdotique. Vous savez, son premier acte de politique monétaire à Wim Duisenberg, c'est une baisse des taux de 50 points de base en avril 99. Voilà.
Mais oui, parce que c'était l'époque de l'euro faible dans ces années.
Mais justement, si on était dans un monde où on avait vraiment que des orthodoxes, vraiment bornés dans une interprétation étroite du mandat de la BCE, alors oui, cette discussion 2%, 2,5%, 3%, aurait une vraie valeur et une vraie importance. Aujourd'hui, l'éléphant dans la pièce, c'est qu'il y a l'objectif de 2% et on s'y tient, mais quand même, on a une panoplie extraordinairement énorme, on a un bilan qui traîne encore des stocks de dette publique considérables, donc en réalité, dans la vraie pratique de la politique monétaire depuis 15 ans, le vrai sujet, il est ailleurs. Donc on peut s'exciter autour des 2%, 3%, mais c'est, le vrai sujet est ailleurs.
Oui, enfin, là où je crois comprendre ce que vous voulez dire, Jean-Pierre, c'est que oui, ces 2% font qu'en attendant dans l'immédiat et dans un avenir assez proche, il ne faut pas espérer de nouvelles baisses de taux. Alors qu'on est devant des enjeux...
La BCE ?
Oui.
Ah si, je pense quand même. Si,
quoi ?
Elle n'a pas fini de baisser ses taux
cette année. Non, pas fini. Ah, cette année encore ?
Ah non, il y en aura d'autres, à mon avis. Ah oui, oui. Ouais. D'ailleurs, les marchés... Enfin, tu me diras, les marchés peuvent se tromper, mais ils pricent un petit peu moins... Enfin, je n'ai pas regardé hier, parce que vu les événements, mais ils pricent encore pas loin de... Enfin, un petit peu moins de 75 points de base de baisse en tout. C'est-à-dire en tenant compte de la baisse de la semaine dernière de 25 points de base.
Et juste pour terminer, le fait que, oui, elle assume dans cette interview accordée... Alors, c'était intéressant, d'ailleurs, et ce que dit Natacha par rapport à la crédibilité. Hier, l'interview aux Échos, elle était accordée à 4 grands quotidiens européens. C'est du très lourd, quoi. Ça sortait en Espagne, en Allemagne, en Italie, en France. Et on sentait que ça avait été relu, mais alors, au mot près.
Mais
c'était presque plus du parler d'ailleurs, c'était presque de l'écrit.
Mais c'est la communication des banquiers centraux est encore plus importante que les outils de politique et monétaire parfois. C'est ce que Pierre-Noël Giraud a appelé très joliment les moyens chamaniques de la politique.
Vous vous souvenez, Frédéric, la première conf de Mme Lagarde, où elle... Je suis pas là pour surveiller les spreads.
C'était pas dans le Covid. C'était juste au démarrage du Covid.
C'est premier. La com de la BCE corrige alors qu'elle est encore en train de parler parce que ça part en vrille.
Bien sûr,
parce qu'elle a dit les spreads, c'est pas mon truc.
C'est pas mon truc, là.
Bon, on a 1:30. Elle assume aussi que, oui, je vais diverger de la Fed et alors, c'est pas la première fois.
Bah oui, c'est pas la première fois.
Voilà.
Un grand nombre d'investisseurs avaient l'air de, parce que moi j'ai eu des questions là-dessus, de considérer qu'il faut que la Fed autorise. Je prends l'exemple de Windusenberg, avril 99, il baisse ses taux alors qu'en juin de cette année, la Fed relève ses taux.
C'est pas un sujet
de l'autonomie, c'est pas
non,
un
non, c'est la situation macroéconomique des zones en question et puis les spillovers. C'est un sujet qui monte en puissance. C'est les impacts de la politique monétaire propre sur le reste du monde.
Oui, d'accord. Mais en attendant, cette divergence, ça va créer une divergence de valeur de... Enfin, automatiquement, l'euro baisse
les
par
chances,
rapport...
Mais si, c'est assez faible, à mon avis. Et là, s'il baisse, c'est pour des raisons politiques, là, depuis lundi.
Oui, mais
c'est pas tellement pour des raisons...
Il a baissé, il a un peu reculé.
Hein. Oui, mais pour l'instant...
Il 1,0950, on est à 1,07 ou 1,08
On était plutôt sur 1,08 quelque chose.
Oui, mais voilà, on est plus dans la période où il y a des écarts.
Non, mais c'est...
D'ailleurs, dans la période récente, c'est assez stable.
Mais bien sûr, on est resté dans un tunnel, une espèce de couloir, mais on n'est plus du tout où on se retrouve 2008, 1,60 par rapport
pour
à...
Pour terminer,
merci Jean-Claude.
Ce que disait Natacha est vrai, c'est quand même un pôle de stabilité, cette monnaie. Enfin, on vit des chocs géopolitiques de fou. Là, on a la deuxième économie de la zone euro qui est en train de... C'est pas trop où elle va aller.
La première, elle est pas bien non plus, je te signale.
Ouais, la première.
L'AFD fait
quoi?
La deuxième, elle a des dirigeants politiques qui prennent des décisions bizarres un soir.
Oui, enfin bon, elle a des réserves. Elle a des réserves.
Mais l'AFD a fait 17% malgré des casseroles absolument gigantesques.
On a fini, c'était passionnant de vous écouter, merci pour tout ça. Donc on est bien d'accord, mélanisation et pas mélanchonisation.
Bien préciser quand tu vas...
Je vais vous faire écouter la bande, messieurs.
Parce que c'est un peu nouveau, mélanisation, alors que mélanchonisation, c'était un peu ancien.
Ma fourche n'avait pas langué. Merci à vous, on se retrouve demain à 9h.